Je suis vraiment reconnaissant de ce que tu me permettes de partager sur le sujet. Merci pour ton humilité. Et j'avais à cœur de t'honorer publiquement, parce que je sais que souvent André parle de transmission, et je crois qu'une des choses que tu as transmises, Michel, c'est ton amour pour la parole de Dieu. Et je crois que ça fait partie de l'héritage de notre assemblée. Et je crois qu'on est reconnaissant pour toutes ces heures, d'études, de travail, de prédication, ces années, c'est plus que des heures, ces années. Donc merci pour tout ce que tu as transmis. Et merci pour ton humilité de partager ce mois de la famille. Donc ça m'a vraiment touché. Donc il y a beaucoup de détails, entre guillemets, des détails dans la parole de Dieu qui peuvent passer inaperçus. Et je pensais à ce verset qui dit « Les choses cachées sont pour l'Éternel et les choses révélées sont pour nous et nos enfants. » Dans Deutéronome 29, verset 28. Il y a des choses qui sont cachées et que Dieu n'attend qu'une chose, c'est de les révéler à ses enfants. Et ça fait partie de ces choses qui sont cachées. Et c'est vrai que même en regardant le dictionnaire biblique, j'ai remarqué qu'ils n'avaient même pas mentionné ce tabernacle de David. Donc c'est vraiment. Tu aussi, tu l'as regardé? C'est intéressant. Donc vous vous rappelez que David avait ramené l'arche à Jérusalem pour la déposer dans une tente. C'était le passage que Michel avait étudié. C'est dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 17. Alors là, je vais reprendre en fait le même passage, mais qui se trouve dans un autre endroit de la Bible. C'est dans Livre des Chroniques, 1 Chronique, chapitre 16. Et je vous invite à regarder avec moi si vous voulez. Alors, une fois, donc 1 Chronique 16, verset 1. Une fois qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant Dieu. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal au sujet de l'arche? Eh bien, il y a quelque chose qui m'a frappé en fait en regardant ce passage, c'est que l'arche est amenée au milieu de la tente que David avait fait dresser. Et il n'est pas parlé de lieu très saint où normalement devait être déposée l'arche de Dieu. Le lieu très saint n'était pas non plus au milieu de la tente de Moïse, mais dans le fond. Comme vous le savez, il y avait deux parties. Il y avait plus grande partie qui était le lieu saint, et la partie qui séparait le lieu saint du lieu très saint par le voile, qui se trouvait au fond de la tente. Donc l'arche est déposée au centre de la tente de David. C'est comme si Dieu nous disait qu'il voulait être au centre de notre vie. Cette image-là. L'arche d'alliance est au centre de la tente de David, comme Dieu doit être au centre de nos vies. On va lire pour continuer versets 4, 6 et 7, donc du même chapitre. Alors, David confia à des Lévites la responsabilité de faire le service devant l'arche de l'Éternel, de rappeler le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et de le louer, de le célébrer. Verset 6. Les prêtres Benaïa et Jachaziel sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'Alliance de Dieu. C'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Donc on va comparer en fait rapidement le service dans la tente de Moïse et le service de la tente de David. En quoi consistait le service dans la tente à l'époque de Moïse? Alors hormis le service du souverain sacrificateur, le grand prêtre, qui devait une fois par an entrer dans le lieu très saint pour l'expiation des péchés avec le sang d'un taureau et d'un bouc, les prêtres devaient changer à chaque sabbat les pains de proposition, qui étaient au nombre de 12, qui représentaient donc les 12 tribus d'Israël, ces pains de proposition qui étaient sur une table en bois d'acacia, donc recouverte d'or. Il y avait également l'huile pour les chandeliers qui éclairait le lieu saint et qui devait être renouvelée. Il y avait aussi le service des parfums sacrés qui brûlait sur l'autel des parfums. Il n'est pas parlé de louanges, de service de louanges, de musique dans le tabernacle de Moïse. Donc nous revenons dans la tente de David avec 1 Chronique 16, versets 37 et 39. David laissa Asaph et ses frères devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel afin qu'ils effectuent le service régulier devant l'arche, suivant les exigences de chaque jour. Et le verset 39, David donc chargea le prêtre Tsadok et ses frères prêtres de servir devant le tabernacle de l'Éternel sur le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Ah, on va prendre un autre passage qui parle, qui se situe au début du règne de Salomon, dans 2 Chroniques 1, versets 2 et 4. Donc 2 Chroniques 1, versets 2 et 4. Et là, c'est encore plus clair. Salomon donna ses ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de famille, et il rejoignit avec toute l'assemblée le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Là se trouvait la tente de rencontre de Dieu fabriquée dans le désert par Moïse, le serviteur de l'Éternel. Quant à l'arche de Dieu, elle avait été transportée par David de Kiriath-Jérim à l'emplacement qu'il lui avait préparé. Il avait en effet dressé une tente pour elle à Jérusalem. Donc on voit que d'un côté, ce qu'on pourrait appeler le service de la présence de Dieu se trouve dans la tente de David à Jérusalem, avec de la musique, et que d'un autre côté, David ordonne à Tsadok, qui était le souverain sacrificateur de l'époque, de continuer les sacrifices devant le tabernacle de Moïse, qui était à Gabaon. Alors Gabaon, pour mémoire, c'est situé environ à 10 km au nord de Jérusalem. Et on se rappelle peut-être de l'histoire des Gabaonites, qui est associée au peuple amoréen, qui firent par ruse traiter une alliance avec Josué dans Josué 9. Avec, vous savez, ils avaient rusé en ayant dans leur sac du pain rassis, des vêtements usés, comme s'ils avaient fait beaucoup de kilomètres, alors qu'ils étaient tout près, à 10 kilomètres. Donc Gabaon faisait partie du territoire assigné à Benjamin, mais la ville fut donnée à la famille d'Aaron. On voit ça dans Josué 21, verset 7. Donc c'est pas un hasard si cette tente de Moïse a été dressée sur le haut lieu de Gabaon, puisque ce lieu avait été donné donc à la famille d'Aaron. Donc il y a donc simultanément, en même temps, deux types de cultes, un nouveau et un ancien. Mais David, ce qui est intéressant, c'est que David n'avait pas rejeté l'ancien, puisque c'est lui-même qui avait préparé, et ça, Michel en parlera plus tard, mais David avait préparé, en fait, tous les matériaux pour la construction du temple, futur temple de Salomon. Il y avait tous les métaux, il y avait l'or, l'argent, le bronze, et aussi le bois, les pierres, tout ça, David le préparera donc pour Salomon. Mais une chose aussi que David a faite pour préparer le service dans ce nouveau temple, c'est qu'on voit ça dans 1 Chronique 23, chapitre 23 et 24, c'est que, David avait préparé l'organisation du service des Lévites pour le futur temple. Il avait déjà préparé ça avant même la construction du temple. Donc les Écritures ne le disent pas, mais David, qui était prophète, voir dans les psaumes les références à Jésus et à son sacrifice. Il y a plusieurs passages qui montrent que David prophétisait les sacrifices de Jésus. David a sûrement une révélation, comme Moïse, de ce tabernacle rempli de louanges, de prophéties, de prières, de déclarations dans la présence même de Dieu. C'est une image prophétique de la Nouvelle Alliance. C'est un peu ce qu'on a vécu ce matin, Florence. David était un homme de l'Ancienne Alliance qui préfigurait représenter le culte, l'adoration de la Nouvelle Alliance en esprit et en vérité. Alors en quoi consistait cette révélation? Alors, on voit dans le chapitre 25 de 1 Chronique, 1 Chronique 25, que David établit une louange continuelle, 24 sur 24, ce fameux 24-7. Une louange continuelle qui est en fait l'image de l'adoration, tout simplement, qu'il y a au ciel, qui est, on sait, continuelle. Il n'y a jamais d'arrêt devant le trône de Dieu, de l'adoration des anges. Et il y avait donc dans ce que David a préparé, il y avait 288 chantres, ce que j'appelle des chantres prophétiques, donc des musiciens et des chanteurs prophètes, qui se relayaient nuit et jour. Il y en avait 12 par heure, représentant les 12 tribus d'Israël, pendant 24 heures, ce qui fait au nombre donc de 288. Donc 12 par heure pendant 24 heures. Il représentait toutes les tribus dans une adoration vivante. David était non seulement un homme de guerre, mais aussi un adorateur, un amoureux de Dieu et sa présence. On le voit dans les psaumes où il livre son cœur devant Dieu. On le voit aussi quand il ramène danser, en dansant l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Il ne se contentait pas de rituels prévus par la loi, et il a introduit un nouveau type d'adoration qui n'était pas prévu par le culte mosaïque, donc par la loi de Moïse. C'est tellement étonnant cette histoire. Je pensais à ce que disait Paul quand il disait « Qui a connu les pensées de Dieu ?» C'est comme si pendant une trentaine d'années, le Seigneur avait voulu nous donner un aperçu du culte de la Nouvelle Alliance. C'était une chose folle pour l'époque où le moindre écart aux règles établies par Dieu lui-même pouvait nous coûter immédiatement la vie. Je pensais au feu étranger des deux fils d'Aaron, Nadal et Abihu, au chapitre 10 de Lévitique, ou bien à la main d'Uza pour empêcher l'arche de glisser au chapitre 6 de Samuel. Ils sont donc morts en ne respectant pas les règles. Donc David avait du courage, et je pense que c'est vraiment lié à la révélation qu'il a eue de ce temple. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble le livre des Actes, acte 15, chapitre, versets 14 à 18. Acte 15, 14 à 18. Je vais vous lire. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les prophéties des prophètes. Alors, donc, c'est Pierre reprend donc une prophétie de Amos. Amos, chapitre 9, versets 11 à 12. « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela. » C'est intéressant de noter que c'est le relèvement de la tente de David qui conduit les nations à chercher le Seigneur. Il est évident qu'il ne s'agit pas ici de reconstruire une tente physique, mais spirituelle, sur le modèle qui fut révélé à David, une maison de prière et d'adoration dans la présence du Dieu vivant. Ce n'est plus un service pour Dieu qui était l'ombre des choses à venir, comme dans le tabernacle de Moïse ou le futur temple de Salomon, mais le service de sa présence. Le service dans sa présence. Et certains disent le service de sa présence. C'était un ministère envers lui et non pas seulement pour lui. Donc voilà ce que je voulais vous apporter.
Je parle sous ton contrôle, mais il me semble que sur le site France en Feu, ouais. Fabienne Ponce qui porte voilà, ce message et qui a construit la louange là-dessus, je pense qu'il y a plus de détails, non ?
J'ai pas regardé France en feu, mais bon, alors il y a un livre. Effectivement, il y a un livre. Je crois que peut-être quelqu'un l'a sur les maisons de prière. Je crois que Colette, tu l'as. Le premier livre parle du tabernacle de David, effectivement. Et il y a des livres qui ont été écrits. Hein. Moi, j'en ai vu un autre. J'ai pas vraiment voulu m'y plonger parce que il y avait plein de détails. Mais je connais un autre livre qui parle du tabernacle de David. Mais c'est vrai que Fabienne, comme tu dis, et puis aussi Rick Riding, il a très très ça à cœur. Et tu te souviens peut-être, Florence, quand on était descendu, il avait parlé du tabernacle à Toulouse. Hein, il avait parlé de ça. Hein. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas très très abordé, mais il est connu par certains. Voilà.
Et c'est ça qui nous conduit à la maison de prière qui, en bas, est en train de se terminer et qui va être fondée là-dessus. Voilà.
Merci beaucoup, Philippe. Ça m'a rafraîchi la mémoire. Hein. Il y avait eu tout un séminaire là-dessus. C'était super. C'est marrant que je n'y ai pas du tout pensé. Et c'est vrai que c'est super de penser qu'il a osé sortir des rites, sortir du rituel, parce qu'il... Et là, c'est là qu'on comprend pourquoi David est considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'avec toutes les bêtises qu'il a faites, vous allez voir, on va trinquer cette année. Ça va être un peu lourd de voir, mais c'est important qu'on le sache. Parce que nous tous, on fait des bêtises aussi. Et c'est important de voir comment Dieu a quand même vu David d'un autre œil. Et on va essayer, nous aussi, de le voir du même œil, tout en tenant compte des âneries qu'il a pu faire. Un homme selon le cœur de Dieu, parce que justement, je pense, oser sortir du rituel pour adorer Dieu 24 heures sur 24, derrière, il y avait un cœur. Parce qu'un rituel 24 heures sur 24, c'est lourd. Hein. S'il n'y a pas un cœur derrière, bon, voilà. C'est quand on accomplit des actes religieux, quelque part, si le cœur n'y est pas, bon, faut pas que ça dépasse trop, et puis pouf, pouf, et on s'en va. Là, non, il y avait le cœur, il était à fond. Et curieusement, j'ai vu dans la liste des noms, un des premiers nommés, c'était Obed-Edom. Et c'est lui qui avait hébergé l'arche, je pense à contre-cœur, parce qu'il devait franchement avoir peur, sachant ce qui s'était passé avant, que d'avoir des problèmes. Et je suis sûre qu'il a dû dire à ses gamins, n'approchez pas de l'arche, touchez pas, vous pouvez mourir. Et chez lui, ça s'est très bien passé. Le cœur et le rituel, c'est deux choses complètement différentes. Alors, on va reprendre la prière de David. On s'était arrêté là, donc on a vu comment Dieu a dit à David, a dit à Nathan, bon allez, va trouver David, et même si tu lui as dit, fais ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi, c'est pas ce que moi je pense, pour une fois, hein, un bon prophète qui a pas écouté Dieu et qui a parlé avec son cœur, c'est pas méchant, la preuve, Dieu l'a pas grondé, il lui a simplement dit, retourne le voir et dis-lui ce que moi je pense. Et va dire à David, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? On avait développé ça, etc. Et la réponse, la prière de David, alors, elle est curieuse cette prière de David, parce que si on la lit comme ça, on a l'impression que c'est un peu grandiloquent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime bien le vocabulaire simple, c'est pour ça que je lis toujours, pour mon plaisir, des livres d'enfants. L'histoire au temps d'eux, tout ça, c'est fait pour des enfants de 10 à 14 ans. Voilà, moi j'aime bien ça. Et alors, ce langage un petit peu, et encore, faut pas se plaindre dans la version NBS ou je sais plus les versions modernes, ça va. Mais dans les vieilles versions, je vous dis pas, c'est lourd, hein, c'est grandiloquent. Qui suis-je, Seigneur, etc. Et on a l'impression que c'est un peu pouf. Bon, pour ça qu'il faut. Si on est gêné par ça, il faut mieux lire des versions modernes. Hein. Mais là, du coup, je me suis attaquée à cette prière pour bien la comprendre. Et la première phrase que David va prononcer, c'est exactement la réponse à « Est-ce toi qui me bâtiras ?» Hein, « Qui es-tu, toi ?» voilà, « Une maison pour que j'y habite ?» Et il a tout de suite compris. Il a quand même cette compréhension de Dieu, David, qui est vraiment formidable. « Qui suis-je, Seigneur Dieu ?» Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici? Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, c'est moi qui suis allé te chercher dans les pâturages, c'est moi qui t'ai donné le poste où tu es, etc. Donc il reprend ça. Mais c'est vrai, Seigneur, qui suis-je pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici? Je reconnais. Alors, c'est bien, il va reprendre comme ça tous les points abordés par le Seigneur. Et parfois, je me dis, quand on prie, peut-être que nous aussi, on devrait reprendre des paroles du Seigneur, des paroles de la Bible. Parce qu'il y a une puissance. Ça montre aussi qu'on a compris, qu'on a digéré, qu'on a assimilé ce que le Seigneur voulait nous dire. Et en tout cas, le premier message est clair. Oui, j'ai compris. Je suis le petit David qui a quitté ses moutons pour devenir roi d'Israël. Ok, c'est toi qui m'as appelé. Il reconnaît qu'il doit tout à Dieu et pas à sa vaillance. Parce que si on regarde quand même tout ce qui lui est arrivé, sa patience, son courage, sa persévérance. Non, mais est-ce que vous réalisez plus de 20 ans dans les empoisonnements, vraiment dans la galère, quoi. Plus de 20 ans. On pense autour de 22 ans. Et là, je me suis posé la question, en écrivant ça sur mon cahier, je me suis dit, mais enfin, c'est bien qu'il reconnaisse que c'est Dieu qui l'a conduit là. Et il est reconnaissant. Mais franchement, moi, je ne sais pas si je serais reconnaissante à sa place. Réfléchissez un tout petit peu. Il aurait pu voir les choses autrement. Vous savez, parfois, quand on lit un texte biblique, il faut le retourner et le mettre à l'envers pour bien comprendre ce que ça veut dire. Et si je retourne ce texte et je le mets à l'envers, ben voilà ce que ça va donner. Voir les choses autrement, être négatif. Bien sûr, vous n'êtes jamais négatif. Hein. Mais moi, oui, ça m'arrive. Ne dis rien, André. Et ce n'était pas la parole de Dieu qu'il attendait ou qu'il aurait pu espérer déjà ce jour-là. En fait, lui, il était là, est-ce que je peux te bâtir une maison ? Et Dieu lui répond, qui tu es pour me bâtir une maison ? C'est moi qui suis allé te chercher. Bon, franchement, c'est vexant, ça ne se fait pas. Hein, vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un que vous aimez, et il vous dit, mais qui tu es, toi, pour... Eh ben moi, je me serais peut-être vexée. Genre, oui, merci, ça me réjouit que tu penses à moi. Hein, bon, franchement, il aurait pu être déçu, David, mettez-vous à sa place. Il aurait pu être déçu. Je viens tout content pour t'offrir une maison, et toi, tu me réponds, est-ce que c'est toi qui vas me bâtir une maison ? Bon, c'est pas très plaisant. Et puis quand on se sent déçu, quand on est déçu, bah on se sent trahi, on se sent traité injustement. Enfin moi je trouve que si on veut regarder ça humainement, si on retourne le texte, eh ben il est traité injustement ce pauvre David. Ça fait 22 ans qu'il galère, il veut offrir un cadeau au Seigneur, et puis qu'est-ce que le Seigneur lui dit ? Est-ce que c'est toi qui vas bâtir la maison ? Bon, soyons négatifs un petit peu. Et voilà ce qu'il aurait pu dire. Est-ce que peut-être nous on aurait dit ? Oh, allez, peut-être pas vous, hein. Eh ben, écoute, Seigneur, moi, je n'ai rien demandé. Franchement, quand tu es venu me chercher, j'avais quoi, 15 ans ? Maintenant, je suis roi, d'accord. Mais 20 ans de galère, Seigneur, est-ce que tu réalises ? D'abord, mes frères m'ont complètement méprisé. Quand je suis allée leur porter leur nourriture sur le champ de bataille, ils m'ont traité de tous les noms, orgueilleux, machin... Bon, puis on m'avait même pas invité quand le prophète est venu. Seigneur, rappelle-toi, ils ont dû aller me chercher. Ils pensaient même pas à moi. J'étais quantité négligeable. Bon, ça commence bien ma vie. Hein. Et puis, le roi. Ah oui, d'accord, j'ai été invité à la cour, etc. Mais après, il est devenu jaloux comme un tigre. Et puis, il m'a envoyé une lance, il m'a poursuivi. Et puis, on m'a même enlevé ma femme, Michal. J'étais content, moi, d'épouser la fille du roi. Ah ben oui, pouf, allez, on me l'a enlevé comme ça d'office. Et puis mon meilleur ami, Jonathan. Oui, c'est vrai qu'on était plus que deux frères, on était vraiment liés, mais... il a fini par suivre son père, il m'a abandonné. Abandonné par mon meilleur ami. Seigneur, tu te rends compte de ce que ça veut dire ? J'avais un ami fidèle, un ami loyal. Il me donnait des bons conseils, on s'est protégés mutuellement pendant des années. Eh ben à la fin, il m'a abandonné. Oh, ça s'est pas fait dans la guerre, hein. Mais il m'a abandonné. Parce que il fallait qu'il suive son père. On peut comprendre. Donc Seigneur, tu vois, j'ai été trahie. J'ai été menacée. J'ai été en guerre pendant 20 ans, n'oublie pas. J'ai même dû me réfugier chez les ennemis d'Israël. Non mais tu te rends compte ? Et puis, franchement, les gens qui m'ont entourée après, franchement, ils n'étaient pas recommandables. Il y en avait, franchement, c'était pas un cadeau, hein. Dès qu'ils voyaient Saül, ils me disaient « Vas-y, tue-le, vas-y !» C'était pas une sinécure de les avoir avec moi, hein. Et puis, tous ces chefs militaires qui ne pensaient qu'à se venger de Saül pour tout un tas d'autres raisons. Et puis après, ben, j'ai été accusée à tort. On m'a menacée de mort. Par mes propres soldats à Tsiklag. Tu te rappelles, Seigneur, quand on est rentré et que nos femmes, nos biens, nos enfants, tout était volé, nos troupeaux, tout. Ben, ils ont dit, maintenant, on va tuer David. Ils commencent, hein, pour un chef, franchement, on est complètement foutus. Là, on a tout perdu. J'ai failli mourir ce jour-là. Et j'en passe. Vous imaginez ? Moi, il aurait pu dire tout ça au Seigneur. Moi, je n'ai rien demandé à 15 ans. Avec mes moutons, j'étais heureux. Tu m'appelles à être roi et je fais 22 ans de galère. Et franchement, moi, ça m'a toujours choquée. Depuis que je suis petite, cette histoire de David, ça m'a toujours choquée parce que je me suis dit, mais franchement, le pauvre, tout ce qu'il a traversé, est-ce qu'il méritait ça ? Il était sincère, il était courageux, il était patient, il était respectueux de l'autorité. Enfin, il avait beaucoup de qualités. Puis qu'est-ce qu'il a trinqué ? Seigneur, pourquoi ? Alors d'accord, on va parler de la succession de victoires. Puis moi aussi, hein, je préfère parler de ses victoires que de ses bêtises. Mais les combats pour avoir ses victoires, hein, fallait l'affronter, le Goliath. Et puis tous les autres. Hein. Alors, je crois que David était en droit de regarder le verre à moitié vide. Franchement, il pouvait regarder le verre à moitié vide. Il pouvait accuser à juste titre ses frères, sa famille, le roi, sa femme, Jonathan, les 400 ou 600 hommes qui l'ont suivi, Joab qui n'en faisait qu'à sa tête, les tribus d'Israël, très lentes à le reconnaître, ça a mis du temps, hein, entre le moment où il a été roi de Juda et puis roi d'Israël, et puis tous les combats incroyables qui ne lui ont pas été épargnés. Et pourtant, Dieu lui rappelle d'où il vient. Ça pourrait sembler un petit peu injurieux, quoi. Moi, j'aurais eu envie de dire, oui, Seigneur, effectivement, j'étais bien dans mes pâturages. Franchement, j'étais bien. Je pouvais composer des beaux chants pour toi. Il ne me serait pas venu l'idée de te construire une maison à cette époque-là, mais les chants. Il lui rappelle d'où il vient. Et puis, en plus, il ne lui permet pas de construire un temple à la gloire du Dieu d'Israël. Franchement, mettez-vous à sa place. Vous ne seriez pas vexé, vous, après tout ça ? S'il y avait eu un petit brin de rébellion dans le cœur de David, je crois qu'il aurait pu se laisser aveugler par l'ennemi et ne pas prendre en considération toutes les promesses qui suivaient. Déjà, cette phrase-là, ça aurait pu être la fin. D'autant plus que les promesses de Dieu concernaient, et là c'est fort aussi, hein, ça concernait qui ? Pas lui. Ses descendants, jusque dans un futur très lointain, l'éternité. Après 22 ans de galère, tout ce qu'on me promet, c'est que moi, je ne construis pas le temple. Et puis, les promesses, c'est pour... Ben, s'il n'avait pas eu l'Esprit de Dieu, je crois qu'il aurait démissionné. Hein. Les promesses pour ses descendants, le trône d'Israël, sa réputation, tu vas avoir un grand nom après ta mort. Ok. Et puis, l'éternité. Tu auras un successeur sur ton trône qui durera pour l'éternité. Mais qui est intéressé par l'éternité aujourd'hui ? Hein ? Eh oui. Et pour notre société au XXIe siècle, où on vit l'instantané, hein, le temps présent, vous savez, l'expression latine « carpe diem », profite du jour d'aujourd'hui, eh bien, toutes ces promesses, ça ne parlerait pas. Hein. Ce serait même très difficile à accepter. Prospère aujourd'hui, ça c'est le message porteur, même dans les églises. Prospérité aujourd'hui. Et pourtant, dans les pays persécutés, on a des tas de frères et sœurs qui risquent leur vie parce qu'ils savent ce qui les attend dans l'éternité. Et là, moi, chapeau bas, j'ai du mal même à imaginer ce qu'ils vivent. Yves nous en parle souvent et il a raison. Ils risquent leur vie pour l'éternité, c'est-à-dire ils perdent tout ce qu'ils ont ici pour l'éternité. Alors quand je suis lasse, parce que ça m'arrive, et que j'ai tendance à voir le verre à moitié vide, eh bien je pense à David. Il aurait pu. Et qu'est-ce qu'il dit ? Et là je l'admire. Qui suis-je, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ? Eh bien Seigneur, je suis d'accord avec toi. Je ne suis rien, tu es souverain. Et c'est la vérité. Hein. Quand vous regardez la création, je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps de regarder les étoiles. Moi, j'aime bien au mois d'août parce qu'il y a plein d'étoiles filantes, c'est marrant. Quand on regarde la création, on se dit « Mais qui suis-je ? » Ah, y a Gérard Payon avait fait un petit chant. Je ne suis qu'un grain de poussière dans l'univers. Et oui, et peut-être probablement moins d'ailleurs si un mathématicien voulait faire le calcul, on ne serait même pas un grain de poussière. Et il dit, c'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur. Tu parles aussi en faveur de ma maison. Il est content pour des temps lointains. Eh bien, ça lui fait plaisir. David est conscient de l'importance de ses paroles. Que pourrais-je encore te dire de plus ? Tu m'as distingué. Alors, ça, c'est une traduction que j'aime pas trop. La traduction la plus courante, c'est « tu me connais ». Tu me connais. Et ça m'a fait penser à Pierre. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu me connais, toi, Seigneur Dieu. Il sait qui il est et il sait qui est Dieu. C'est pas un Dieu de poche, c'est pas un Dieu dont on peut se moquer, c'est pas un Dieu qu'on peut contourner, qu'on peut manipuler, qu'on peut présenter comme ci, comme ça. Tu es Dieu et moi, je suis rien. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour me les faire connaître. Toutes ces grandes choses. Il s'axe sur les choses que Dieu fait, pas sur moi, moi, moi. Que tu es grand Seigneur Dieu, nul n'est semblable à toi et il n'y a pas de Dieu à part toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Et c'est capital de dire ça à l'époque. Parce qu'à l'époque, les dieux des différentes nations rivalisaient de célébrité. Alors, il y avait les dieux égyptiens, vous avez tous fait ça à l'école, hein. Voilà, c'est en sixième, je crois, hein, les dieux égyptiens. Ils rivalisaient d'autorité, de force, de pouvoir, etc. Les dieux mésopotamiens, qui étaient très marrants, ils se bouffaient entre eux, enfin bon, c'est pas très joli. Et les gens allaient jusqu'à sacrifier leurs enfants devant ces dieux-là. Et lui dit, toi Seigneur, tu es grand, il n'y a pas d'autre dieu comme toi. Un dieu qui interdit les sacrifices d'enfants. Et il fallait qu'il ait une foi en Dieu extraordinaire pour ne pas regarder son intérêt immédiat et regarder l'éternité et les promesses de Dieu. Et il y a un point important, qui est peut-être surtout important pour nous à notre époque, c'est que la relation de David avec Dieu n'est pas individualiste. Alors c'est curieux, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ait. Souvent on vous fait mettre votre prénom à la place. Oui, c'est un Dieu qui s'occupe de chaque individu personnellement. Ok, mais c'est pas un Dieu individualiste. C'est aussi le Dieu d'une nation, c'est aussi le Dieu d'un groupe. Malgré cette relation personnelle, et c'est difficile à comprendre. C'est pour ça que Josué avait dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et puis, chaque personne à l'époque se savait liée à une famille, ascendant et descendant, et à une fratrie, et à une tribu, et au peuple en entier. Il y avait cette notion communautaire que nos pays occidentaux ont largement perdue. Pourtant, parfois, les gouvernements essaient de nous rappeler. Voilà, je me souviens toute une campagne pour les grands-mères, il y a quelques années. On a institué la fête des grands-mères, et puis il y avait dans les journaux de la CAF qu'on recevait à l'époque, mes enfants étaient petits, il y avait des articles entiers sur prendre soin des grands-mères, profiter des grands-mères, que les petits-enfants profitent des grands-mères. On essaie de rétablir, parce que la cellule familiale, c'était papa, maman, ou quelquefois papa ou maman, et un ou deux ou trois enfants maximum. Voilà, elle se réduit là. Alors qu'autrefois, faut dire que les gens vivaient souvent dans des fermes, il y avait un peu plus de place, et il y avait les oncles, les tantes, les grands-parents, les grand-tantes parfois, etc. Il y avait une notion communautaire. Alors, ça crée des problèmes, hein. Mais il y avait une notion communautaire. Et on est loin, loin de la notion actuelle, donc de la petite cellule familiale. On est loin aussi du fait « je fais ce que je veux, c'est ma vie ». Parce que la vie était difficile et on avait besoin de la solidarité familiale. Il y avait la maladie, il y avait les morts prématurées, il y avait les famines, il y avait les épidémies, un petit peu pire que le Covid, etc. La peste, entre autres. Hein. Et donc, on avait besoin les uns des autres, on cherchait une solidarité. Et la relation avec Dieu était liée, ma relation avec Dieu, oui, mais aussi ma famille avec Dieu et mon peuple avec Dieu. Ça, quand on lit la Bible, il ne faut jamais oublier ça. Et David va rebondir sur cette notion de peuple, parce que Dieu a insisté là-dessus, et lui aussi va reprendre le thème de la sortie d'Égypte. Vous voyez, il reprend ce que Dieu lui a dit dans sa prière. Et il parle, voilà ce qu'il dit. « Y a-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme Israël, ton peuple ?» Pas le sien, même s'il est roi. Que les dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et pour lui donner un nom, c'est-à-dire le rendre célèbre. Tu as fait pour eux de grandes choses, tu as accompli des œuvres redoutables pour ton pays. Il faut se rappeler des choses que Dieu a fait. Et ce matin, je crois que c'est Philippe qui parlait avec moi de Luther. Oui, il faut se rappeler de ces gens qui ont changé la face du monde en rappelant que Dieu est un Dieu de grâce. Il faut se rappeler de ce que Dieu a fait pour son peuple chrétien, qui vivait dans un asservissement. Il fallait payer pour être sauvé, il fallait donner de l'argent à l'Église pour ceci et pour cela, voilà, en échange du salut, en échange du pardon. Il faut se rappeler que Dieu a libéré son peuple. Le peuple que tu as libéré de l'Égypte, de ses nations et de ses dieux, pour, il y a toujours un pour avec Dieu, et c'est important de savoir le pour. Souvent, je vous dis, les jeunes, il faut savoir pourquoi. Pourquoi on va à l'Église? Pourquoi on est chrétien? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Parce qu'il y a un but avec Dieu, c'est jamais comme ça gratuit. Pour qu'il t'appartienne. Tu as fermé Israël, ton peuple, afin, vous voyez, ça revient, hein, afin qu'il soit ton peuple pour toujours, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Appartenance. Il reprend exactement, si vous regardez, je n'ai pas le temps de le faire, mais il reprend tous les thèmes que Dieu a développés quand il lui a parlé. Le peuple appartient à Dieu, mais David a été placé roi à la tête de ce peuple. Donc la relation de David à Dieu, elle est liée au peuple. Parce que Dieu, vous avez remarqué dans ce que Dieu dit, c'est lié. Dieu et David, Dieu et son peuple. Le peuple et David, c'est lié. Les promesses faites à David concernent David, sa famille, mais aussi tout le peuple d'Israël. Et ça va beaucoup plus loin quand il parle de l'éternité, puisque le successeur de David, c'est Jésus. Eh oui, c'est Jésus, et Jésus, c'est pour l'éternité. Hein? Et là aussi, David a très bien compris. La construction du temple, ce n'est pas David et Dieu, mais c'est David et ses descendants. C'est David et le peuple d'Israël et Dieu. Et pas seulement pour maintenant, mais pour toujours. Il a compris, parce que s'il n'avait pas compris, il y avait de quoi se révolter. Honnêtement, il y avait de quoi être vexé. Mais il a compris. Mais Seigneur, tu parles pour les temps lointains, tu parles pour quelque chose de merveilleux, quelque chose qui va venir, pour l'éternité, un successeur qui va être un roi, etc. David a tout compris. C'est pourquoi dans sa prière, il reprend les paroles de Dieu à son compte. Alors je me suis dit, mais pourquoi ? Franchement, c'est quelque chose qui m'agace, moi, quand dans la Bible, je lis trop de répétitions. Ah, c'est... Alors, nous, les Français, on n'aime pas ça. Hein. Les Anglais, dans leur littérature, vous autorisent, hein, je vous le dis en passant, les enfants, quand vous faites une traduction, c'est casse-pied, parce que les Anglais, ça passe le fait de faire une répétition d'un même mot, ça ne gêne pas, même chez les grands auteurs. Alors que nous, en français, si vous mettez deux fois le même mot dans une rédaction sur la même ligne, ça ne passe pas. Bon, vous pourrez dire à vos profs, mais les auteurs anglais, ils ont le droit. Même les auteurs célèbres. Et bah oui, donc parfois, moi, ça m'agace un petit peu. Et puis, j'ai réalisé que ça veut dire que David a compris. C'est pour ça qu'il répète. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des Fabiano, qui nous faisait, ils prenaient les couples, ils avaient fait un séminaire de couple, et puis il fallait donner, ils avaient une petite, un des deux avait une petite bille, et il l'a donnée à l'autre quand il était sûr qu'il avait été compris. Et ainsi de suite. De toute façon, à ce qu'on ne donnait la bille que quand c'est sûr qu'il n'y avait pas eu d'incompréhension et pas de malentendu, etc. Ah ! Eh bien là, je trouve que c'est un petit peu ça. David nous montre ici, je reprends, Seigneur, tout ce que tu as dit, je le reprends à mon compte, je te montre que j'y crois et que ça me réjouit. Pourtant, moi, je trouve que ce n'est pas toujours réjouissant. Et ça me donne la foi pour l'avenir. Il redonne la bille. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris, on s'est compris. Hein ? Oui, moi, j'admire David. C'est clair, il a accepté et il a assimilé. Il ne s'est pas fâché. Dieu a une vue beaucoup plus haute que la nôtre. Il aime chaque individu, bien sûr, mais ses promesses de bénédiction vont forcément rejaillir sur nos familles et sur le peuple de Dieu. Et sur le corps de Christ universel. Ce qu'a fait Luther a rejailli sur sa famille. Et comment, le pauvre, il a été poursuivi, il a eu des tas de problèmes. Mais ça a rejailli sur sa ville, ça a rejailli sur l'Europe, ça a rejailli jusqu'aux extrémités du monde. On a redécouvert le salut par la grâce. Donc, ce que vit un individu avec Dieu, ça peut rejaillir très, très loin. Les uns les autres, on est liés au monde environnant, qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est clair. Même si on est sauvage, même si on n'a pas envie de voir les autres, même si on est heureux d'être seul dans un coin, on vit dans une société et on ne pourra pas l'éviter. On est lié à notre monde environnant. Et le regard de David passe de « moi et toi, Seigneur » à « toi et ma famille, Seigneur », puis « toi, ma famille et ton peuple ». Là, ça se voit très bien dans la description ici. Franchement, la vie spirituelle de David aurait été beaucoup plus simple s'il était resté avec ses moutons. Moi, ça me fait rêver quand il raconte ça. À louer Dieu dans les pâturages. Mais il a été appelé à autre chose. J'allais dire le pauvre. La vie dans le peuple de Dieu est plus difficile que d'être seul chez nous. Honnêtement. Avec notre ordinateur, éventuellement, c'est beaucoup plus confortable. Mais je sais que nous avons tous été appelés à autre chose. Pour nous, pour notre famille, pour le peuple de Dieu. Et David formule sa prière. Ce qu'il demande à Dieu, ce n'est plus « Regarde, je vais faire un palais et l'arche là, elle est dans un temple, ça va pas, il faut faire quelque chose. » Il dit « Maintenant, Seigneur Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur moi et sur ma maison. Agis selon ta parole. » Et là, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Écoutez ça. Je vais juste les mettre ensemble. « Agis selon ta parole. » Et un petit peu après, « Que ton nom soit grand pour toujours. » Et un petit peu après, que l'on dise « Le Seigneur des armées est sur Israël. » Ça vous dit rien, ça? Moi, ça m'a sauté aux yeux. Est-ce que ça ne fait pas penser à la prière de Jésus? Écoutez ça. « Seigneur Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur moi, ton serviteur, et sur ma maison. Agis selon ta parole. » Que ta volonté soit faite. Que ton nom soit grand pour toujours. Que ton nom soit sanctifié. Et que l'on dise, le Seigneur des armées est Dieu sur Israël ou règne sur Israël. Que ton règne vienne. Ah, j'étais fière d'avoir trouvé ça comme une grande. Mais c'est vrai, il y a une unité dans la parole de Dieu. Et là, on le voit, Ancien Testament, 1000 ans avant Jésus-Christ. 3000 ans plus tard. Apprends-nous à prier, Seigneur. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne veille, que ta volonté soit faite. » Ça vous dit, c'est incroyable, l'unité de la parole de Dieu. 3000 ans d'écart, des auteurs complètement différents, et on retrouve la même trame. Après, il dit « Que ma maison à moi, David, il précise, hein, que ma maison à moi, David, soit affermie devant toi, car toi-même, tu m'as informé, je bâtirai une maison pour toi. C'est pourquoi j'ai trouvé le cœur de t'adresser cette prière. » Bah oui, parce qu'il en fallait du cœur pour lui adresser cette prière. Avec tout ce qu'il avait vécu, être capable de dire « Qui suis-je, Seigneur ?» Ok. Et j'aime bien cette phrase, il est honnête. C'est pourquoi j'ai trouvé le cœur de t'adresser cette prière. Il n'impose absolument rien à Dieu, mais il se réfugie derrière sa promesse. Et cette promesse lui semble énorme, même si c'est pour très loin. Maintenant, Seigneur Dieu, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité et tu m'as annoncé ce bienfait. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est important. Quand on prie, parfois, on se dit « Ah, mais c'est pas la peine, Dieu, il le sait. Pourquoi vous lui dites « Seigneur, tu es vérité ?» Ben, parce qu'on a besoin, nous, de se le redire. Et on le dit bien sûr pour Dieu, mais on le dit aussi pour nous, hein. Faut pas rêver. Oui, Seigneur, tu es la vérité. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Parce que le diable passe son temps à nous dire, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dieu te laisse tomber. T'es rempli de péché. T'es mauvais. T'es pas bon, etc. Hein? Et bien, de temps en temps, on a besoin de dire, Seigneur, tu es Dieu. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Et c'est ce qu'il fait. Tu es Dieu. Tes paroles sont vérité. Tu m'as annoncé ce bienfait. Maintenant, veuille bénir ma maison afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Donc, il reprend les promesses de Dieu en forme de prière. Répétition, oui, parce que il absorbe. Car c'est toi, Seigneur Dieu, qui a parlé, et par ta bénédiction, ma maison sera bénie pour toujours. Et je pense que c'est la prière qu'on peut faire pour nous, personnellement, pour notre famille, pour notre Église. Par ta bénédiction, ma maison sera bénie pour toujours. Grâce à Jésus, qui est venu, lui, le grand roi, et lui, au moins, il est parfait.